connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il dit ces paroles dans le trésor, alors qu'il enseignait dans le temple, et personne ne vint l'arrêter, parce que son heure n'était pas encore venue. Nous voulons prier. Seigneur, on veut te remercier. Te remercier pour ta parole ce matin. Te remercier déjà pour tout ce qui a été vécu, parce que oui, en effet, tu es avec nous. Tu es avec nous tous et tu veux nous parler, tu veux continuer de nous parler aujourd'hui par ces paroles qui viennent d'être lues. Alors parle-nous d'une manière claire, distincte, afin que nous puissions entendre ta voix, afin que nous puissions mettre en pratique ces paroles qui viennent de toi. Oui, nous voulons te prier en ton nom. Amen. Amen. Alors voilà, cela fait quelques semaines que nous sommes engagés dans une série de prédications qui a pour but de nous aider à mieux vivre et partager l'amour de Dieu autour de nous. Voilà, qui est là pour nous aider à vivre la vie du Christ telle qu'il nous l'appelle à la vivre. Et c'est vrai que si nous voulons vivre la vie du Christ, eh bien, il est vraiment fondamental que nous puissions aussi comprendre qui est le Christ. Parce que c'est vrai, lorsque nous parlons avec certaines personnes autour de nous qui ne sont peut-être pas toujours très familières avec la foi chrétienne, eh bien, certaines personnes vont en fait nous dire « Ah, mais Jésus est juste un réformateur social. » Ou d'autres diraient « Mais non, Jésus est un révolutionnaire, Jésus est un féministe, Jésus est un pacifiste. » Ou « Jésus est un bon prophète, est un bon prédicateur. » Et pourtant, lorsque nous prenons le temps de lire justement tout ce récit de l'évangile de Jean, eh bien, nous constatons que Jésus est bien plus qu'un prophète, que Jésus est bien plus qu'un prédicateur. Et il suffit de lire déjà tout le début de l'évangile de Jean pour donc cerner cela. Souvenez-vous de ce que Jean écrit, il dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Et en lien avec notre texte du jour, eh bien, Jean continue d'écrire ceci, « La parole était Dieu, en elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Ici, nous remarquons que Dieu n'a pas fait une courte visite parmi les êtres humains et puis est reparti dans son ciel. Mais Dieu s'est incarné. Il a pris notre condition humaine. Il a, en tant que créateur, assumé notre fragilité humaine. Il a, en tant que Dieu éternel, entré dans le temps. Il est le Dieu tout-puissant qui s'est rendu vulnérable. Il est le Dieu saint qui s'est exposé à la tentation. Il est le Dieu immortel qui a connu la mort, mais qui est revenu de la mort à la vie. Et en fait, dans tout cet évangile, comme j'ai dit la fois dernière aussi, eh bien, nous voyons que l'objectif de Jean est de pouvoir faire en sorte que nous puissions un jour confesser que Jésus-Christ est Fils de Dieu et qu'en lui, et que si nous croyons en lui, nous aurons la vie. Nous aurons la vie à jamais, pas juste ici, la vie sur terre. Et puis, Jésus dit, je suis la lumière du monde, mais d'abord, je suis, c'est Dieu qui se, en fait, il se présente à la première personne, je suis celui qui suit, voilà ce qu'il dit à Moïse. Et plus tard, c'est Jésus qui dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Ouais. Lorsque Dieu se présente lui-même à nous, eh bien, il dit qu'il est, je suis. Et lorsque nous essayons de parler de lui à la troisième personne du singulier, eh bien, les Juifs de l'époque qui n'osaient pas prononcer le nom de Dieu, eh bien, disaient Yahweh. Et donc, lorsque Jésus prend la parole et qu'il se permet là, non pas de se contenter de dire aux foules « Je suis le pain de vie » ou « Je suis la porte des brebis », eh bien, ici, dans notre passage du jour, il dit « Je suis la lumière du monde ». Je suis la lumière du monde. Et donc il va plus loin, il dit, je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Souvenez-vous de ce qui se passe au moment où Jésus prend la parole. Il y a eu cette fête des tabernacles, cette fête du Soukhot dont nous avons parlé justement il y a quelques semaines ici, dans ce lieu. Cette fête qui rappelle la protection de Dieu à l'égard de son peuple, lorsque son peuple était là durant 40 ans dans le désert. Cette fête rappelle la provision de Dieu, comment Dieu a pourvu aux besoins de son peuple durant ces 40 jours qui les ont menés de l'Égypte jusqu'au pays promis, et où Dieu a donné la maille, Dieu a donné l'écaille, Dieu a frappé le rocher pour que l'eau surgisse. Et puis, ce temps particulier dans le désert nous rappelle aussi Dieu qui est présent au sein de son peuple et qui se manifeste et qui manifeste sa présence par un nuage ou par une colonne de feu, un nuage durant le jour, la colonne de feu durant la nuit, pour permettre justement au peuple d'être conduit jusqu'à la terre promise. Et lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », je pense qu'il veut faire référence justement à cette colonne de feu par laquelle Dieu se manifestait pour conduire son peuple. Oui, je suis la lumière du monde et celui qui ne marchera pas dans les ténèbres, celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà ce que Jésus est en train de proclamer ce matin ici pour nous. Il est semblable à cette colonne de feu. Il est ce Dieu qui pourvoit à nos besoins, qui nous conduit, qui nous protège, juste à ce que nous arrivions à bon port, juste à ce que nous arrivions en fait, dans son ciel, dans cette nouvelle Jérusalem. Voilà ce qu'il dit à son peuple, voilà ce qu'il veut nous dire aussi ce matin. Il est cette lumière du monde, semblable à cette colonne de feu. Et je pense que vous savez peut-être, n'est-ce pas, que l'évangile de Jean accorde beaucoup d'importance justement à ce thème de la lumière, tel que je l'ai lu en fait au début de ce temps ensemble. Voilà, bon, mais Jésus-Christ qui est la parole, qui est cette lumière de vie, cette lumière de vie qui n'a pas été reçue par le monde, par les ténèbres. Et cette parole, bien sûr, s'inspire en fait de la parole du psalmiste au chapitre 18, lorsqu'il dit « Tu fais briller ma lampe, tu illumines mes ténèbres ». Voilà ce que le psalmiste dit et voilà les paroles dont l'apôtre Jean s'inspire. Ou souvenez-vous de cette autre parole de l'apôtre Jean, mais dans sa première lettre, en fait au premier chapitre, où il dit « Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de ténèbres ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Voilà ce que Jésus dit. Et je pense qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, n'avons-nous pas l'impression que les ténèbres se manifestent beaucoup, souvent d'une manière brutale, d'une manière violente. Voilà, en fait, comme c'est le cas dans beaucoup de ces pays dont nous parlons tous ces derniers temps, que ce soit l'Ukraine, bien sûr, déjà, mais que ce soit l'Arménie dont on parle moins parce que les médias sont moins intéressés par ce qui s'y passe et pourtant c'est grave, ou bien sûr, la Terre Sainte, où a été établi l'État d'Israël, où il y a la Cisjordanie, dans la bande de Gaza, et là nous voyons la manifestation extrêmement brutale en fait des ténèbres. Et je pense que vous l'avez entendu, n'est-ce pas, de tous ces journalistes qui ont dit haut et fort, eh bien, les Juifs pensaient que l'État d'Israël serait leur lieu de protection pour toute leur vie. Et là, ils ont vu tout le contraire. Là, ils ont commencé à comprendre que ce n'est pas un État, que ce ne sont pas des hommes ou des femmes haut placés qui peuvent protéger leur vie, mais il doit bien y avoir quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Il y a quelques semaines, nous avons eu Stephen Page comme orateur ici dans cette église et j'étais mangé chez lui quelques jours plus tard et il me racontait, oui, donc c'était après le 7 octobre bien sûr, et il me racontait, puisqu'il était en Israël il y a quelques semaines pour un mariage donc à Jérusalem, il a rencontré un certain nombre de juifs qui ne sont pas messianiques, qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, je dirais, et suite à ce qui s'est passé le 7 octobre, eh bien, plusieurs de ces familles israéliennes, juives non pratiquantes même, eh bien, l'ont appelé parce que lorsqu'ils avaient parlé avec lui, ils avaient senti quelque chose chez eux, enfin, bon, ben, chez lui et sa femme, qui n'avaient pas eux. Et ils avaient besoin de vivre quelque chose de paisible. Et là, ils avaient ressenti cette paix qu'ils n'avaient jamais expérimentée ailleurs. Et c'est là qu'ils l'ont appelé, qu'ils ont appelé en fait tous les deux, et qu'ils ont partagé toute leur détresse, et qu'ils leur ont demandé qu'ils puissent leur transmettre des paroles de sagesse, des paroles de consolation, parce qu'ils en étaient incapables face à des amis de leur famille, dont en fait certains ont été pris en otage. Oui, Jésus est en train de nous dire en fait ce matin, ce ne sont pas des hommes ou des femmes de ce monde qui pourront assurer notre protection jusqu'au bout, qui pourront garantir notre avenir et notre avenir dans le ciel de Dieu. Mais il n'y a que le Christ seul qui peut assumer cette mission. Alors ce matin, bien sûr, il y a ces ténèbres qui sont terribles, qui se manifestent là dans ces contrées. Mais n'avons-nous pas, nous aussi, des ténèbres qui nous touchent de près, qui font que notre vie est extrêmement difficile à supporter? Alors ce que j'ai envie de faire ici pour quelques instants, c'est de nous dire, mais Seigneur, montre-moi ou montre-nous déjà ces ténèbres qui nous touchent de près, qui touchent nos familles, qui touche les relations avec des personnes de notre voisinage, avec des personnes sur notre lieu de travail, avec encore d'autres personnes que nous croisons dans la rue. Seigneur, quelles sont ces ténèbres qui sont là et qui me font tellement mal aujourd'hui, qui nous font tellement mal aujourd'hui, qui font tellement mal à nos familles aujourd'hui? Quelles sont-elles? Aide-moi, aide-nous à mettre le doigt dessus et aide-moi, aide-nous à te faire entièrement conscience, à te suivre, afin que je ne puisse pas continuer à marcher dans ces ténèbres qui me tirent tellement vers le bas. Alors je vous propose un temps de silence, de quelques instants, de vous placer devant Dieu, de lui partager, de lui confesser, de lui partager plutôt, ces ténèbres qui nous font tellement mal et qui nous bloquent dans notre quotidien aujourd'hui. Prenons ce temps, quelques instants, et peut-être plus tard, eh bien, vous aurez à cœur de témoigner de ce qui est là et de ce qui fait mal aussi dans votre vie aujourd'hui. C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il n'est pas seulement la lumière d'Israël, mais il est la lumière du monde. Il est la lumière, en fait, de toutes les nations. Souvenez-vous de ce que Dieu dit au travers du prophète Ésaïe, par exemple, au chapitre 49, mais aussi dans d'autres chapitres. Il dit ceci: c'est un peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ou dans Ésaïe 60, c'est les premiers versets, il dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et ta gloire et la gloire de l'Éternel se lèvent sur toi. Voici les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Jésus-Christ est la lumière du monde, ou plutôt on pourrait le traduire ainsi, Jésus-Christ est la lumière qui donne la vie ou qui illumine la vie. Jésus ne vient pas nous apporter quelques éclats de sa lumière, mais il désire nous donner une lumière qui illumine toute notre vie afin que nous soyons pleinement en mesure de briller de sa présence, afin que nous soyons bénédiction pour toutes ces personnes qui nous entourent. Lorsque Jésus dit qu'il est la lumière du monde et cette lumière de vie, il nous parle bien sûr du salut, il nous parle de son abaissement, il nous parle de son sacrifice, du don de sa vie sur la croix, bien sûr, mais il nous donne encore davantage de cela. Il nous donne son salut, il nous donne son entrée dans sa famille, mais il nous donne aussi toutes ses ressources pour que nous puissions briller de lui autour de nous et être des acteurs de vie et pas juste des gens qui partagent des paroles. En tant que lumière du monde, Jésus est cette lumière de la vie. Il est cette lumière de la vérité. Si vous lisez le passage en fait ce matin, eh bien, il y a les pharisiens qui apparaissent subitement dans tout ce partage. Et puis, les pharisiens lui disent, mais écoute, ce que tu dis n'est pas vrai. Et puis Jésus dit simplement, mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Point final. Il ne passe pas son temps encore à argumenter. Il dit non, ce que je dis, c'est vrai. Vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas où je vais. Voilà ce que Jésus dit aussi en fait dans sa réponse. Et puis il va encore un peu plus loin. Parce qu'il dit, mais vous savez que dans la tradition juive, pour qu'un témoignage soit authentifié, il fallait deux témoins. Et Jésus dit, il y a moi et puis il y a mon Père. Et nous sommes les deux qui attestent que ce témoignage que je viens de vous partager est vrai. Je dis la vérité. Jésus, lumière du monde, lumière de vérité. Et lumière de vérité qui est bien sûr attestée par tout son ministère. Il vient pour enseigner avec une telle autorité, mais en plus... Eh bien, en plus, il nourrit ses grandes foules, en plus, il marche sur les eaux, en plus, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, comme on peut le voir dans la suite de l'Évangile. Oui, Jésus-Christ, c'est le Dieu de vérité. C'est le Dieu de vérité. Et c'est même un Dieu d'intégrité, parce que tout ce qu'il promet, il accomplit. Là, vous vous souvenez-vous de ce que Dieu dit à Abraham ? Tu auras une descendance, elle sera nombreuse. Tu auras une terre. Et cette descendance nombreuse, elle sera bénie. Et au travers de cette descendance nombreuse, toutes les nations seront bénies. Et comme je viens de vous le lire dans cette prophétie d'Ésaïe, le Messie par excellence qui accomplit tout cela par sa venue, par sa mort et par sa résurrection est celui dont Ésaïe parle et qui dit « Tu seras lumière pour toutes les nations ». Donc ce que Dieu dit, il accomplit. Et c'est pour ça qu'il est ce Dieu, non pas simplement qui donne la vie, qui illumine la vie, mais il est ce Dieu de vérité, il est ce Dieu d'intégrité. Et il est ce Dieu finalement aussi qui est une lumière d'espérance. Jésus est lumière d'espérance parce qu'avec lui, nous avons un avenir. Avec lui, notre vie ici-bas ne s'arrête pas. Elle continue par la suite. Il y a une espérance. Et c'est cela qui est extraordinaire. Ici, en fait, dans ce passage, ouais, je suis la lumière du monde. Et quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors Jésus dit, je suis la lumière du monde, mais Jésus dit aussi, lorsqu'il est sur la montagne, il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Voilà ce que nous pouvons lire dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Alors que Jésus enseigne d'une manière magistrale sur la montagne, il dit, Matthieu 5, verset 13, « C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison, et que votre lumière brille devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Voilà Jésus qui va utiliser deux métaphores très connues, en fait, pour la vie de famille de l'époque. Il y a le sel et il y a la lumière, deux éléments absolument indispensables pour la vie quotidienne de toutes les familles. Le sel, qui ne doit pas perdre sa saveur. La lumière, qui doit éclairer les ténèbres et qui doit même en fait les dissiper. Et Jésus nous dit, vous êtes, donc ce n'est pas vous serez, non mais vous êtes. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous savez, bon, ben, sans lumière, moi je trouve que la vie est dangereuse. Même à l'Avigny, la vie est dangereuse. Lorsqu'on se promène dans le noir, enfin, ce n'est pas qu'il y a des gens dangereux en fait, dans la rue, mais moi je peux vite trébucher lorsqu'il n'y a aucune lumière. Oui, on a besoin de lumière. En fait, quelles que soient nos situations. Et puis on a besoin de sel. En tout cas, pour les gens de l'époque, le sel était indispensable pour empêcher la décomposition des viandes mangées au sein des familles. Et en tant que sel de la terre et lumière du monde, eh bien, nous sommes invités en tant qu'Église à freiner la décomposition de notre société. Nous sommes appelés à être lumière dans ce monde qui est plongé dans les ténèbres, comme on en est tellement conscient aujourd'hui. Et nous aurions peut-être cette tendance à vouloir nous plaindre de la manière dont la société est dirigée, mais c'est notre responsabilité aussi, n'est-ce pas? Puisque nous sommes celles de la terre. Donc c'est notre responsabilité de nous dire, nous n'allons pas laisser la société dans laquelle nous sommes continuer de se décomposer ainsi. Il faut le freiner. Et nous devons lutter aussi contre toutes ces ténèbres qui font tellement de mal dans toutes ces régions du monde. L'Église a un rôle aussi, ici comme ailleurs. Mais voilà. C'est quelqu'un qui disait, il faut que nous soyons des garde-fous solides. Quelqu'un d'autre, alors peut-être que je suis un peu moins à l'aise avec cette phrase-là, mais quelqu'un d'autre disait, nous sommes invités à être un désinfectant dans un monde où les normes morales sont nivelées par le bas, changeantes, voire inexistantes. Ouais, quel appel, n'est-ce pas? Mais certains d'entre vous me diront certainement, eh bien, oui, mais le sel, il ne peut pas perdre sa saveur, n'est-ce pas? Oui, mais quand même, le chlorure de sodium, s'il est mélangé avec des impuretés, eh bien, perd sa saveur. Comme le chrétien, finalement. S'il passe tout son temps entouré de personnes qui ne veulent pas de Dieu et qui l'encouragent à ne pas vouloir de Dieu et qui se laissent entraîner par ces personnes-là, eh bien, ils deviendront inutiles pour le royaume de Dieu aussi. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut se séparer, bien sûr. En fait, des gens qui ne sont pas croyants, loin de là. Mais si nous commençons à adopter, à adhérer à tous ces systèmes de pensée et ces valeurs de vie qui sont loin de ces valeurs de l'Évangile, eh bien, nous sommes tels que ce sel qui perd sa saveur. Et puis pour cette lumière, lumière du monde, hein, qu'est-ce que dit le texte? Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Alors que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière du monde, eh bien, ce sont finalement nos bonnes œuvres. comme Jésus ici l'exprime, en fait, dans ces quelques paroles. Ce sont ces bonnes œuvres, non pas que nos bonnes œuvres nous sauvent, mais parce que nous faisons partie de la famille de Dieu, parce que nous avons été adoptés au sein de la famille de Dieu, nous allons vouloir accomplir de bonnes œuvres pour le bien de la société, pour le bien de la cité. J'aime cette citation de Martin Luther King qui disait un jour « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour, et je dirais l'amour du Christ le peut. » Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à ne pas être une église invisible. Mais nous devons être sur cette colline, visible de tous, visible de toute la région, et briller, briller de Jésus-Christ, tout autour de nous. Parce que si nous nous cachons derrière un mur, eh bien, ou sous un boisseau, comme cette lumière auquel Jésus fait référence, on ne va pas servir à grand-chose non plus. Alors ce matin, eh bien, il y a cette deuxième question. Avant de terminer, deuxième question. De quelle manière Jésus-Christ désire-t-il que nous brillions dans ces temps qui viennent ? De quelle manière Jésus-Christ désire-t-il que nous, en tant que communauté, puissions vivre et partager son amour dans ces temps qui viennent ? Alors, je pense que vous vous souvenez, n'est-ce pas, il y a 2 ans de cela, nous étions entrés dans cette campagne 40 jours pour mieux aimer. Et je me souviens qu'au bout de la première semaine, eh bien, dans la plupart des groupes, nous nous étions posé cette question. Eh bien, Seigneur, vers qui veux-tu que nous exprimions de l'amour ? Parce que nous ne savons pas encore où aller. Et puis la guerre en Ukraine a éclaté. Et puis nos amis sont venus juste ici. Et le Seigneur nous a fait comprendre que c'était une partie de ce qu'il attendait de nous pour ces temps qui viennent. Et je pense qu'il en attend encore davantage dans les mois qui viennent, je ne sais pas encore quoi exactement, mais certainement il va nous le montrer. Mais peut-être que ce matin, déjà certains d'entre vous avaient reçu quelque chose de Dieu et de dire, ben, nous avons le sentiment, j'ai l'impression que Dieu est peut-être en train de nous dire que c'est de cette manière-là et auprès de ces personnes-là qu'il désire que nous puissions briller, briller de son amour. Alors voilà ce matin. Ne nous laissons pas intimider par ce qui se passe autour de nous. C'est vrai, les chrétiens sont devenus une minorité dans de nombreux pays ici, en Occident, bien qu'ils soient peut-être majoritaires sur d'autres continents, mais quand même. Les chrétiens restent minoritaires dans toutes les sociétés aujourd'hui. Et c'est vrai que nous serions tentés de se dire, ben, peut-être qu'on va un peu rester pas trop visible, sans quoi on va encore nous taper sur les doigts. Et j'aimerais bien en fait, terminer par cette citation. C'est un sociologue qui l'a partagé il y a déjà quelques années. Mais il disait ceci. Il disait... Une société peut changer radicalement si seulement 2% de sa population a une nouvelle vision pour un monde juste. C'est un sociologue qui le dit, c'est pas un pasteur, quoi. Et je pense que autant en Suisse qu'ailleurs, enfin dans beaucoup de contrées, il y a plus que 2% de chrétiens. Nous avons chanté l'unité ce matin, l'unité de l'Église, pas juste l'unité de notre communauté, mais l'unité du corps de Christ. Si nous sommes disposés à faire abstraction de certaines choses qui provoquent des divisions entre nos communautés et que nous sommes prêts justement à vivre et partager l'amour du Christ d'une telle manière et de briller ainsi comme Jésus est lumière du monde, eh bien nos sociétés peuvent vraiment changer radicalement. Mais voilà, pour être le sel de la terre, il ne faut pas perdre sa saveur. Et pour être lumière du monde, bah, il faut briller. Il faut briller. Alors voilà, ce matin, Jésus nous dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est lumière du monde, mais il est lumière de la vie, il est lumière de la vérité, il est lumière de l'intégrité que nous sommes appelés à incarner, il est lumière de l'espérance, parce que nous avons un avenir, nous qui plaçons notre confiance en Jésus-Christ, eh bien, osons alors être pleinement lumière du monde. Tout comme Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et nous voulons prier. Et ensuite, je laisse la parole à Pierre-André. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es parmi nous ce matin. Tu nous dis des choses incroyables. Je pense que certaines personnes de l'époque, mais même peut-être aussi aujourd'hui, se disent, mais ce Jésus, c'était un mégalomane. Comment ose-t-il dire qu'il est ainsi le « je suis », qu'il est Dieu et qu'il est la lumière, non pas simplement pour un petit peuple, le peuple d'Israël, mais pour le monde entier, pour toutes les nations. Et pourtant, tu es lumière du monde. Tu es Dieu et tu es lumière du monde. Et tu brilles sur ce monde. Tu chasses au travers déjà de ton Église, propagée un peu partout dans le monde, tu chasses de nombreuses ténèbres, et pourtant, il y en a encore, et tu le vois, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans certaines contrées, elles sont là, et nous implorons ton intervention, nous implorons tes manifestations, mais nous savons aussi que tu interviens par notre biais, par notre intermédiaire, tu nous as appelés aussi à cela. Eh bien, Seigneur, aide-nous à entrer encore, à continuer d'entrer dans cette démarche et que vraiment ces ténèbres soient dissipées et que toute ta lumière brille sur notre pays, mais brille sur toutes les nations et qu'ainsi des vies soient changées une à la fois par ta grâce, par ton amour, par ton pardon, grâce à ta vie, grâce à ta mort et grâce à ta résurrection. Oui, nous voulons te le prier en ton nom. Amen.